Chapitre 105. Mont Ahara, camp kurde, Turquie. Sous le regard méprisant de Cortès, Cécile saisit la main droite de Zach, tandis qu'Arsène prenait la gauche. Ils le tirèrent vers eux. Cortès observait Zach, infirme, se tortiller dans la poussière, tel un vulgaire insecte. Il l'étoisa.
« Notre ami Zach Ikabi a fait preuve d'un courage inouï pour monter nous rejoindre sur une seule jambe. » Presque autant que Zeytine.
Cortès laissa filer un bref éclat de rire.
Pour tout vous avouer, il était motivé. S'il s'arrêtait, Zeytine avait l'ordre de l'abattre.
Cortès s'accroupit et se pencha lentement vers Zach.
Je vais vous faire une confidence, Ikabi. Mieux que cela, un compliment. Je dois vous avouer qu'avec votre histoire de Néphilim, vous m'avez beaucoup retardé. J'ai réellement cru à votre mythe de secte millénaire protégeant le secret de l'Arche, vos tatouages de licorne et votre site internet. J'ai mis du temps à comprendre que je n'avais face à moi qu'un vieil illuminé et ses deux fils, protégeant une tribu de bergers dégénérés, trois familles qui élèvent des chèvres depuis la nuit des temps et les vénèrent comme des licornes. Quelle ironie ! Dire que j'ai passé des mois à constituer une véritable armée pour affronter une poignée de Kurdes en fin de race.
Cortès approcha encore le visage. Son turban pourpre était trempé de sueur.
Bien joué, messieurs. Mais la partie était perdue d'avance.
Le mercenaire se tourna vers la petite Aman, prise en étau dans les bras crispés d'Esther.
Surtout à partir du moment où cette charmante fillette a fini par accepter de me conduire ici.
Cécile serrait la main froide et tremblante de Zach dont la jambe virait au bleu. « Quelle folie !» s'écria la chercheuse au mépris de toute prudence. « Tous ces meurtres pour une telle fable, c'est... » Cortès se contenta de sourire.
« Votre scepticisme est stimulant, docteur Serval. Agaçant, mais stimulant. »«
C'est votre arrogance qui est pitoyable !» explosa Cécile. Les dieux seraient des extraterrestres, doués d'une avance technologique sur nous. C'est cela votre théorie? C'est ce que raconterait la Bible si on la lit entre les lignes? Sacrée trouvaille! Ouvrez Internet, des dizaines de sites ressassent cette version délirante.
Cela ne prouverait pas que j'ai tort,
répondit calmement Cortès.
La théorie de l'origine extraterrestre des anges, vous avez raison, a fait l'objet de quelques publications depuis des siècles, d'ailleurs souvent censuré. Mais, à ma connaissance, personne, vous m'entendez bien, personne à part moi, n'a échafaudé la théorie suivante pour expliquer le mythe de Noé. L'arche est le vaisseau d'un conquistador. Les couples d'animaux rassemblés par lui constituent son butin. Le déluge est une mise à sac avant la fuite des pseudo-dieux. Vous ne pouvez pas nier, vous qui avez lu le livre d'Enoch, à quel point une telle théorie est séduisante. Dois-je vous rappeler ces indices convergents qui nous crèvent les yeux? La Bible, Genèse, chapitre 6, qui évoque les Néphilim, qui les décrit comme des géants qui forniquent avec les humaines. Vous savez lire, docteur Serval. Vous connaissez le poids des mots. C'est écrit noir sur blanc dans l'Ancien Testament. Elohim, ceux qui viennent du ciel. La Bible nous parle d'un peuple venu du ciel, pas d'un Dieu unique. Vous êtes une scientifique, docteur Serval. Ne pensez-vous pas que le comportement le plus irrationnel est de croire en ce Dieu unique, miséricordieux et omniscient? N'êtes-vous pas consciente que les religions monothéistes ont monté la plus belle opération d'intox de ces derniers millénaires? Pour ne prendre qu'un exemple, à votre avis, pour quelle mystérieuse raison l'islam et le christianisme auraient-ils condamné à ce point toute référence au sexe des anges? Vous avez rencontré Jean-Bernard Pat, n'est-ce pas? Lui a dû vous convaincre. Le bond en avant de l'humanité, la brusque éclosion de nouvelles connaissances, de nouvelles technologies, d'un nouvel ordre moral, ici, au Kurdistan, le berceau des religions, du yazdanisme, du culte des anges déchus, la traduction littérale du terme Néphilim. S'agit-il d'un hasard? D'une coïncidence, docteur Serval?
Zach se tordait de douleur. Il posa la main sur le bras de Cécile, comme pour lui intimer l'ordre de se taire. La chercheuse n'en avait aucune intention. Cortés se prenait à son propre piège. Il cherchait à la convaincre parce qu'elle était rationnelle. Une scientifique qui représentait l'élite intellectuelle laïque non corrompue par la religion. S'il ne parvenait pas à la convaincre, qui parviendrait-il à convaincre? Qui le croirait? C'était le seul atout qu'avait trouvé Cécile. Elle surjoua le sarcasme. « Désolée, mon petit Kirill. Votre éloquence ne me suffit pas. Il me faut des preuves, pas seulement des théories. » Cortés serra le poing, mais ne céda pas à la provocation.
« Des preuves? Vous avez besoin d'arguments concrets, c'est cela? D'accord, docteur Serval. Prenons le problème dans l'autre sens. Depuis plus d'un siècle, des témoignages variés, mais convergents, attestent la présence de bois anciens sur les pentes de l'Arara, trouvés au-delà de la limite de la végétation. Je vous dresse la liste. Le prélat Jean-Joseph Nourry, le glaciologue britannique Gascoigne, le capitaine russe Roskovitsky, l'aviateur George Jefferson Green, le fermier turc prénommé Rezit, George Agopian, Fernand Navarra, et encore très récemment, l'expédition adventiste chinoise. Rien que cela. De la même façon, autour du site fossile de Durupinar, près de Dogubayazit, les chercheurs ont découvert des indices tout aussi troublants, encres de pierre, clous, traces importantes de carbone dans le sol. Qu'en conclure? Si on ne peut raisonnablement admettre qu'un navire en bois ait pu s'échouer à une altitude de 5000 mètres, prétendre que tous ces témoignages ou ces découvertes relèvent de l'hallucination collective n'est pas plus admissible. Les éliminer de l'équation ne serait pas scientifiquement acceptable. Pensez-y, docteur Serval, tournez le problème dans votre tête. Il n'existe qu'une solution en réalité.
Zach claquait des dents. Cécile le pressa contre sa poitrine. Elle ne parvenait pas à deviner où Cortés voulait en venir. Le mercenaire hurla presque.
Une seule hypothèse résout l'équation, docteur Serval. Tous ces indices ont été placés là pour que des aventuriers les découvrent, délibérément. Comme les messages préparés à l'avance lors d'une chasse au trésor. Poutres de bois antiques dans les grottes du glacier Paro, proue d'un vaisseau qui émerge du lac de Kop, ancre et clous enterrés à Durupinar. Ils ont été disposés intentionnellement, pour une raison toute simple, détourner l'attention. Les plus crédules y verront la preuve d'une interprétation littérale de la Bible. Les autres, comme vous, docteur Serval, seront renforcés dans leur scepticisme face au mythe. Dans tous les cas, l'attention est détournée. Depuis des décennies, les chercheurs d'Arche marchent dans les pas de Navarra, de Green, d'Erwin. Fouillent, expédition après expédition, le gouffre d'Aora, le site fossile de Durupinar. Ils cherchent du bois et pas autre chose. Ils le recherchent ici et pas ailleurs. Personne ou presque ne s'intéresse au site qui, à l'évidence, devrait concentrer tous les regards et tous les moyens. Vous avez compris lequel, docteur Serval. Le sommet de l'Arara. Le lieu où, pourtant, la seule preuve qui n'a pas pu être fabriquée par l'homme s'affiche. Entêtante, indéniable. L'anomalie d'Arara. Ne trouvez-vous pas étrange que l'accès au sommet du mont Arara ait été interdit aux Arméniens et aux Ottomans pendant des siècles, mais que, dès que le sommet fut atteint par Paro, les découvertes de reliques de l'Arche de Noé se soient multipliées sur tous les autres lieux du massif de l'Arara? Ne peut-on imaginer que toutes ces preuves aient été fabriquées, placées à dessein par une tribu locale de Kurdes ou par quelques Occidentaux partageant leurs secrets? Appelons-les Néphilim, par exemple. Les Navarra il y a 60 ans, les Parella aujourd'hui. Écoutez-moi bien, docteur Serval, j'ai étudié en détail l'histoire de la conquête de l'Arara. Toutes les preuves exhumées par les chercheurs d'Arche depuis 1850 étaient des leurres, des pièges, dans le seul but de masquer une vérité trop évidente. Souvenez-vous, des siècles auparavant, les moines d'Etchmiadzin eux-mêmes inventèrent la légende de Saint-Jacob et montrèrent à la lunette, dans la gorge d'Aora, la silhouette d'un piton rocheux ressemblant à s'y méprendre à un vaisseau pris dans les roches. Quel est le plus crédible, docteur Serval? Que ce soit la nature qui ait taillé une roche de la forme d'un navire, justement sur la Rara, bien visible du monastère dans la plaine? Ou que ce ne soit qu'un habile trompe-l'œil, sculpté par les hommes qui déclarèrent le mont maudit à une époque où les glaces ne recouvraient pas encore entièrement son sommet?
L'anomalie d'Arara, murmura Cécile. C'est bien cela votre explication. Tout le reste n'est que leurre. Les glaces dissimulent un vaisseau échoué au sommet du mont. Pourquoi, si ce vaisseau n'est pas un navire voguant sur l'eau, mais une fusée extraterrestre ou quelque chose dans le genre, se serait-il échoué? Cortés sourit.
La vérité est inscrite très explicitement dans le livre d'Enoch. Relisez les passages. Les dieux ne sont pas d'accord entre eux. Certains reprochent aux autres leurs exactions envers les populations locales, les viols, les sacrifices. D'autres, à l'inverse, sont condamnés parce qu'ils révèlent trop de secrets aux hommes. Lorsqu'il est décrété, le déluge est décidé par certains dieux. D'autres s'y opposent au nom de leur conscience. Voulez-vous que j'achève l'histoire d'Hernan, docteur Serval? Elle est heureuse, au moins pour les indigènes. Lorsqu'Hernan eut rassemblé dans ses cales un couple de chaque animal de l'île et un nombre de serviteurs indigènes suffisant, il rompit tous les barrages de l'île pour l'inonder, puis largua les amarres. Mais Hernan ignorait qu'il était surveillé depuis des mois par les autorités de son royaume natal, un de ces royaumes dits civilisés, qui se partageait le monde connu, qui se donnait la mission suprême de le coloniser avec ordre, méthode, principe, surveillant les aventuriers, les pirates qui sapaient leur autorité. Hernan ne navigua pas une heure. Son vaisseau fut intercepté. La lutte fut brève et inégale avec la flotte royale. Le vaisseau d'Hernan s'échoua sur le rivage. La plupart des indigènes furent ainsi sauvés, comme la faune et la flore de l'île. Les indigènes conservèrent à jamais le souvenir mythifié de cette colonisation avortée. Des écrits, des récits de ces dieux versatiles, qui vinrent et repartirent.
Les arguments martelés par Cortés fissuraient les mailles de certitude dont était tissée l'armure de Cécile. Pourtant, elle savait qu'elle ne devait rien changer à sa tactique. Douter. Douter pour faire parler Cortés. Douter pour gagner du temps. Vous avez beaucoup d'imagination, Kirill. L'Arche de Noé est donc en réalité un vaisseau spatial qui décolla, emportant son butin, et qui, intercepté par la police intergalactique, dut atterrir en catastrophe au sommet de la Rara.
Un vaste plateau quasiment sans glace il y a 5000 ans. Souvenez-vous de ce que nous racontait Enoch dans la nuit des temps. Je fus enlevé ainsi jusqu'au ciel, et j'arrivai bientôt à un mur bâti avec des pierres de cristal. Des flammes mobiles en enveloppaient les contours. N'est-ce pas là la description imagée d'une fusée qui décolle ?
Ridicule, cracha Cécile. Cortés broncha.
N'abusez pas de ma patience, docteur Serval. En ce qui concerne vos doutes sur la vigilance d'une police intergalactique, peut-être Noé fut-il victime d'une banale avarie ou d'une mutinerie, qui peut savoir ? Après tout, certains conquistadors virent leurs trois mâts couler par des pirogues ou finir dévorés par des tribus cannibales.
Et le déluge? Comment votre pillard Noé s'y est-il pris? Supprimer toute vie sur une planète n'est pas aussi facile que d'inonder l'île de votre Hernan?
Nous parlons de technologies dont nous ignorons la puissance, docteur Serval. Sans doute avait-on les moyens de modifier les conditions météorologiques, ou tout simplement de faire exploser une bombe. Certains scientifiques expliquent le déluge universel par une légère modification de l'axe du globe, sans doute provoquée par un impact exceptionnel à la surface de la Terre. On peut penser qu'un tel exploit n'est pas très difficile pour des êtres qui maîtrisent une énergie capable de les faire voyager dans l'espace. Pas plus difficile que pour Pizarro ou Cortés d'utiliser de la poudre à canon afin de faire sauter des temples précolombiens.
Cécile caressa le torse de Zach. Il peinait à maintenir les yeux ouverts. Elle épongea sur son front brûlant des gouttes de sueur, la plaie ouverte suintait à nouveau. L'obscurité s'était maintenant totalement installée sur le campement. Les derniers rougeoiements du ciel dessinaient encore pour quelques minutes les courbes de la Rara, avant qu'elles ne disparaissent à leur tour. Dans l'herbage, seules se distinguaient les masses sombres des chèvres qui broutaient au loin, indifférentes.
« Vous, vous êtes fou !»
articula Cécile.
« Peut-être, après tout, »
fit calmement Cortès.
« Peut-être pas. Mon hypothèse en vaut bien une autre, non ? Vous n'allez pas me contredire, docteur Serval. Il n'y a qu'un moyen de la valider ou de l'invalider. Allez sur le terrain et vérifiez. Votre rapport RS2A 2014 m'a été d'une grande utilité. D'ailleurs, faites preuve d'un minimum de lucidité. Si le sommet de la Rara n'avait pas une importance stratégique, pourquoi le Parlement mondial des religions vous aurait-il commandé cette étude ? Les grandes religions se sont partagées la planète sur la base d'un mensonge millénaire. Les récits sacrés ont habilement détourné la mémoire de l'humanité. Il suffirait de dévoiler au monde le secret de l'anomalie d'Arara, une preuve, une seule, de l'origine extraterrestre de toute notre connaissance, pour que tout cet équilibre se rompe.
Vous... vous...
Elle est là-haut, docteur Serval. Là-haut, à portée de main. La preuve unique que toutes les religions ne sont qu'un vaste foutage de gueule.
Il se tourna vers le visage fermé d'Arsène.
Si vous ne me croyez pas, demandez au professeur Parella. Son mutisme n'est-il pas plus éloquent que tous les discours ?